France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. LFI sous pression et menacée, le siège de la France insoumise a été évacué ce matin en raison d'une alerte à la bombe, signe du climat tension très forte qui règne au sein de la classe politique. Depuis la mort de ce militant nationaliste à Lyon, LFI dénonce des accusations infamantes, on va l'entendre. Et puis on fera le point sur l'enquête qui se poursuit avec 11 interpellations. L'eau qui monte encore et toujours dans l'ouest de la France et ce n'est pas terminé puisque la pluie est encore attendue dans les prochaines heures. Un homme est porté disparu près d'Angers, son canot a chaviré, on ira sur place, tandis qu'en Dordogne, certaines communes sont privées d'eau potable depuis déjà une semaine.
Je fais chauffer l'eau pour la vaisselle, je n'utilise pas l'eau du robinet. On se méfie toujours, je ne veux pas prendre de risque, tant que l'eau, ils ne nous diront pas que l'eau est bonne, je ne consomme pas.
Reportage à suivre chez ces sinistrés qui commencent à trouver le temps long. Pourquoi y a-t-il autant de suicides en prison et comment les éviter? Deux invités pour nous répondre à 13h30 et vos questions sont les bienvenues. 01 45 24 7000. Vous êtes peut-être plongé dans les affres de Parcoursup. Ce rapport parlementaire devrait donc vous intéresser. Bonjour Laurélie Carrive.
Bonjour.
Les auteurs se montrent très critiques sur le fonctionnement de la plateforme d'orientation.
Oui, selon eux, elle reproduit voire aggrave les inégalités socioculturelles qui existent en amont.
Toutes les précisions avec vous dans les prochaines minutes. On parlera aussi du ramadan qui commence, du voyage d'Emmanuel Macron en Inde, accompagné de ministres qui tentent de sauver leur place sur fond de remaniement imminent, et puis des sorties ciné de la semaine avec Timothée Chalamet en star du tennis de table. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Voilà plusieurs jours que la pression monte, que les critiques se font plus sévères. LFI appelé hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu à faire le ménage, je cite, dans ses rangs et dans ses idées. La France insoumise est au cœur du débat politique depuis la mort du militant identitaire Quentin de Ranque la semaine dernière à Lyon. Et dans ce climat de grande tension, le siège du parti a donc été évacué ce matin. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour.
Vous êtes sur place dans le 10e arrondissement de Paris, siège évacué en raison d'un appel à la bombe.
Oui, c'est vers 10h ce matin que les militants de la France Insoumise ont donc appris la potentielle présence d'une bombe dans leurs locaux. Voyant donc des policiers placer des rubalises dans les rues alentours, un périmètre de sécurité a été dressé. Les militants présents sur place ont tous été évacués le temps qu'une levée de doute soit réalisée par les policiers. Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, y a d'ailleurs participé. Pour lui, c'est une grave intimidation de plus depuis le passage à tabac et la mort de Quentin de Ranque à Lyon.
Vous avez une quinzaine de permanences parlementaires de la France Insoumise, de locaux de campagne qui ont été parfois attaqués, parfois tagués, avec parfois des vitres cassées. Et moi je veux dire solennellement à tous les militantes, les militants, les sympathisants de la France Insoumise de faire preuve évidemment de sang-froid, d'être bien sûr prudent.
Pour la France Insoumise, donc, pas de doute, cette alerte à la bombe est bien liée aux récents événements, pourtant pas encore de revendication. Emmanuel Bompard s'adresse toutefois au pouvoir public.
Et moi, je veux dire qu'il est aussi de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir la possibilité d'avoir un débat démocratique qui soit un débat démocratique digne et sain.
Les militants de la France Insoumise ont pu regagner leurs locaux vers midi tout à l'heure. Aucune bombe n'a été retrouvée.
Merci Erwan Chassin en direct du siège de la France Insoumise grâce aux moyens techniques de Céline Guéribi. On a donc entendu LFI qui parle d'accusations mensongères et qui fait bloc. On va y revenir dans un instant avec vous, Victoria Coussa du service politique. Mais les critiques ne vont certainement pas s'éteindre puisque l'enquête apporte peu à peu de nouveaux éléments. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
11 personnes au total ont été interpellées, dont l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud. Alors que sait-on du profil des principaux suspects ?
Tous des fils de bonne famille, comme on dit, études brillantes pour certains, et tous dans les actions violentes qui nous ont amenés à dissoudre leur mouvement d'ultra-gauche confié ce matin à un haut cadre du ministère de l'Intérieur en découvrant certains des profils des gardés à vue. Pour Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud, les enquêteurs estiment qu'il était jeudi dernier l'un des chefs du service de sécurité de LFI pour la venue de Rima Hassan à Sciences Po, mais on ne sait pas à cette heure ce qu'il a fait ensuite, précisément. Même chose pour trois de ses proches, bien connus des services de renseignement intérieur à Lyon.
Et l'enquête, Emmanuel, semble bien se focaliser sur le rôle joué par la Jeune Garde, ce groupuscule antifasciste dissous l'été dernier.
Oui, la Jeune Garde, ce sont au total une centaine de membres seulement sur l'ensemble du territoire, mais suivis sur les réseaux par près de 20 000 abonnés. Le ministère de l'Intérieur avait fini par estimer, après plusieurs enquêtes, que sous couvert d'organiser la défense de ses membres, je cite le décret de dissolution de l'été dernier. Le groupement provoqué à Lyon principalement, mais ailleurs aussi, a des agissements violents contre les personnes en vue d'affrontements avec les groupes adverses d'ultra-droite, groupuscule adepte des sports de combat, stage de combat de rue, avec de nombreux passages à l'acte, comme l'avait rappelé notre correspondante à Lyon, Mathilde Imberti, en début de semaine. La liste démarre le 1er juin 2023 et se termine le 11 septembre 2024 dans le décret. 10 passages à l'acte violents au total, où ce sont les militants de la Jeune Garde qui repèrent, suivent et attaquent, pas vraiment en autodéfense, pour protéger une manifestation, une réunion politique dans un bar ou une librairie.
Alors tout cela évidemment accentue la pression sur la France insoumise et tout particulièrement sur le député Raphaël Arnaud. Ce matin, avant l'alerte à la bombe, le gouvernement a appelé LFI à l'exclure de son groupe parlementaire, au moins de façon temporaire. Mais pour l'instant, bonjour Victoria Coussin.
Bonjour.
Le parti fait bloc.
Oui, comme à chaque tempête, l'état-major insoumis serre les rangs. Jean-Luc Mélenchon soutient le collectif dissous, donc pas question de lâcher son fondateur, le député du Vaucluse. Un cadre du parti le répète à chaque crise. On défendra toujours les copains pour quoi que ce soit, surtout contre les charges violentes du Rassemblement National et du gouvernement. Ce matin encore, des mises en cause sur les plateaux qui provoquent, selon les insoumis, des intimidations sur le terrain. L'alerte à la bombe, des menaces de mort, des permanences vandalisées et une inquiétude qui gagne les rangs, mais qui permet aussi à LFI d'alimenter sa stratégie de victimisation.
Et comment se positionne le reste de la gauche?
Eh bien, sans surprise, et pour le dire simplement, chacun agit en fonction de son intérêt électoral. Municipal d'abord, embarras à la tête des partis. Silence de l'écologiste Marine Tondelier, sortie mesurée du socialiste Olivier Faure, puisque le scrutin local, l'avenir de leur ville, leur vitrine, Strasbourg, Grenoble, Paris ou Marseille, dépend de l'attitude des insoumis au second tour. Et de ces résultats dépendra aussi une partie de la présidentielle. Ceux qui ne font qu'y penser attaquent fort LFI, comme Raphaël Glucksmann ou récemment François Hollande. Plus d'alliance avec la France insoumise, pousse l'ancien président. On ne peut plus clair. Jean-Luc Mélenchon n'a pas sa place au second tour. J'en prends ici la promesse, l'engagement et le pari.
Victoria Coussin, service politique. Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Merci à tous les deux. Des routes coupées, des maisons inondées, un quotidien chamboulé. Depuis plusieurs jours maintenant, les crues n'en finissent pas de compliquer la vie des habitants de l'ouest de la France. Et elles ont fait des victimes, directes ou indirectes. Le gouvernement a donné tout à l'heure un premier bilan. 2 personnes sont mortes intoxiquées par du monoxyde de carbone. En Gironde et dans les Landes, contraintes d'utiliser un générateur puisque l'électricité avait été coupée. Une personne est décédée en Dordogne dans un accident sur la voie publique impliquant une voiture immergée. On ne connaît pas encore les détails. Et puis un homme est porté disparu à Chalonne-sur-Loire, tombé de son canoë tard hier soir dans le fleuve, comme l'explique le préfet de Maine-et-Loire, François Pénaud.
Hier, il y a une embarcation qui, en fin de soirée, début de nuit, s'est renversée avec 3 personnes à bord. On a pu récupérer 2 des 3 personnes et il y a une personne qui est toujours aujourd'hui recherchée, mais compte tenu du courant et des vitesses, c'est très compliqué et on met les moyens, mais malheureusement avec objectivement assez peu de chances de retrouver cette personne. C'est pour moi l'occasion de passer un message extrêmement clair sur le fait que la Loire, compte tenu de ses débits et compte tenu du courant, est extrêmement dangereuse. La Maine également. Tous les fleuves aujourd'hui ne doivent pas être pratiqués ou pratiqués avec des moyens professionnels. J'aimerais que les secours puissent se consacrer à autre chose qu'à faire du sauvetage et qu'ils puissent en revanche apporter secours, ravitaillement aux gens qui sont enclavés dans leur maison et qui ont besoin qu'on vienne les secourir et les réconforter.
Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Angers, dans ce département du Maine-et-Loire qui reste en vigilance rouge. L'eau continue de monter et de nouvelles mesures vont être prises.
Elle vise d'abord à éviter les circulations et donc minimiser les risques. Car si la Loire atteint son pic aujourd'hui, ce n'est pas le cas de la Maine. La rivière va continuer à sortir de son lit, gagner de nouvelles parties de la ville. Plusieurs ponts vont être fermés. Le pont de Verdun, notamment le plus vieux pont d'Angers. L'eau est tellement haute qu'elle ne s'écoule presque plus sous ses arches. La pression est trop forte. Les transports en commun vont être limités, interrompus dans les zones où l'eau va encore gagner cet après-midi. Dès demain, la métropole va demander à ces agents qui le peuvent de rester chez eux en télétravail. Les prévisions donnent 6,16 mètres vendredi matin. Alors parmi les bâtiments à risque, il y a désormais une résidence senior notamment. La municipalité se prépare à évacuer les habitants si nécessaire, dit-elle. Pour l'instant, 2 gymnases ont été équipés pour les accueillir. Mais par ici, ils sont peu nombreux, ceux qui souhaitent quitter leur maison, en tout cas pour le moment.
Merci Faustine Calmel en direct d'Angers avec Eric Audra. Pour les moyens techniques, tout cela n'est pas fini. L'eau continue à monter. Vous l'avez dit, la tempête Pedro Béraud arrive en plus avec de nouvelles pluies. On fera le point dans le bulletin météo d'ici une quinzaine de minutes et les sinistrés doivent donc s'armer de patience. C'est le cas notamment de ces habitants de la Dordogne, 18 communes privées d'eau potable depuis maintenant une semaine. Les mairies doivent donc distribuer des bouteilles d'eau comme à Campsegré, où vous vous êtes rendue, Marie-Astrid Guégan.
Il ne reste que 2 packs d'eau dans le stock de Philippe, le patron du routier chez Pépé Paul, au bord de la RN21.
Sur le rayon, voilà, mon épouse est repartie en chercher, elle est repartie chercher une quinzaine. On se ravitaille tous les jours des packs d'eau pour cuisiner, pour faire du café soluble, voilà.
Le couple met aussi une bouteille d'eau sur chaque table pour laver les assiettes et les couverts. Ils font très attention, comme Philbeau, il habite de l'autre côté de la route.
Je fais chauffer l'eau pour la vaisselle, je n'utilise pas l'eau du robinet. C'est mes consignes à moi. On se méfie toujours. Je ne veux pas prendre de risque. Tant que l'eau, ils ne nous diront pas que l'eau est bonne, je ne consomme pas.
Cathy et Gilles, eux, ont rangé les bouteilles distribuées par la mairie près de la machine à café. Ils oublient souvent d'en prendre avec eux quand ils se lavent les dents.
Ah ben, des fois, je prends les bouteilles, des fois, je rince vite avec l'eau comme on ne leur vale pas.
De toute façon, rincer l'eau, c'est
ouais, ça. Ouais, après, l'eau, elle est pas marron, hein, parce qu'ils disaient qu'elle allait être marron, mais...
Ouais, après, ça croque.
Elle est blanche, en fait, puisqu'ils ont dit d'éviter de la consommer, alors on évite de la consommer.
Ils s'adaptent quand même mieux à l'absence d'eau potable qu'à la vie sans courant. Ça a duré 5 jours, ils n'en pouvaient plus.
Reportage Marie-Astrid Guégan, ici Périgord. Et pendant que le ministre de la Transition écologique était au chevet des sinistrés en Charente-Maritime, d'autres ministres, eux, sont en Inde, accompagnant Emmanuel Macron dans son voyage officiel. Et c'est d'autant plus important qu'un remaniement se prépare. Rachida Dati va quitter le gouvernement pour faire campagne à Paris, Amélie de Montchalin pour prendre la tête de la Cour des comptes. Alors dans la délégation française que vous accompagnez pour France Inter, Julien Nenni, beaucoup tentent de s'attirer les bonnes grâces du président pour obtenir ou pour tenter de garder un ministère.
Sur la photo officielle, on l'aperçoit à peine. Tout juste un bout de visage niché juste derrière Emmanuel et Brigitte Macron. Ce mardi à Bombay, Catherine Pégard partage un déjeuner avec le couple présidentiel et une poignée de stars du cinéma bollywoodien. Catherine Pégard, vous dites, le nom de cette ancienne journaliste revient avec insistance pour succéder à Rachida Dati et passer ainsi de conseillère culture du président à ministre de la culture. Le remplacement de Dati et de Montchalin, c'est la question du moment en coulisses, sourit un conseiller. Je serai la dernière à avoir la réponse, esquivait hier Catherine Pégard dans un couloir. Car oui, même à 7000 km de Paris, le remaniement imminent du gouvernement rattrape Emmanuel Macron. Le bon moment pour lui en parler, c'est jeudi, pendant les 8 heures du vol retour, glisse une ministre, elle aussi présente en Inde, et en pleine campagne pour conserver son portefeuille. De retour à Paris vendredi, le président aura alors jusqu'à dimanche pour nommer le gouvernement Le Cornu 3. En tout cas, s'il respecte le calendrier réclamé par son Premier ministre.
Julien Nenni, service politique de France Inter. Et en attendant, Emmanuel Macron poursuit sa visite en Inde pour resserrer les liens entre les deux pays et pour améliorer l'attractivité de la France. La France qui a bien besoin justement de gagner en attractivité. On va voir ça avec vous. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Céline.
Car on apprend dans un baromètre publié par la Chambre de commerce américaine en France que les investisseurs américains n'ont plus beaucoup confiance en notre économie.
Ouais, c'est un tableau sévère que dresse cette enquête annuelle menée auprès d'entreprises américaines implantées sur le sol français. La moitié des dirigeants interrogés estiment ainsi que la situation économique française s'est dégradée. Seuls 17% pensent qu'elle va s'améliorer dans les mois à venir. Enfin, moins d'un tiers des maisons mères aux États-Unis ont une bonne image de l'Hexagone. C'est le taux le plus bas depuis des années. Marc-André Camel est vice-président de la Chambre de commerce américaine.
La perception de la France par les maisons mères américaines est revenue aujourd'hui au niveau où elle était il y a 10 ans. On avait eu une progression très très forte de l'attractivité de la France, essentiellement entre 2017 et 2022. Et maintenant, on est revenu 10 ans en arrière.
Alors, principale raison, sans surprise, l'instabilité politique. Les débats budgétaires de cet automne ont laissé des traces, explique Mickaël Loco à la tête de cette chambre de commerce.
De l'autre côté de l'Atlantique, quand on n'est pas en France, le moindre changement peut éroder cette confiance. Alors que quand on est, on va dire, entreprise française et qu'on a tout le contexte et qu'on comprend les tenants et les aboutissants, et on sait par exemple que les milliers d'amendements qui sont déposés ne vont pas forcément avoir un impact. Vous voyez ça des États-Unis, vous comprenez pas, c'est pas le même contexte. Et ça érode plus facilement la confiance.
Mais au-delà du contexte politique et géopolitique, les Américains, premiers investisseurs en France, se plaignent toujours de la complexité administrative, de la fiscalité est trop lourde. Ils appellent donc à des réformes d'ampleur, tout en étant résignés. Hein, trois quarts de ces dirigeants n'ont pas confiance dans le gouvernement français pour les mener, ces réformes. Pour autant, pas de panique, plutôt de l'attentisme avec le report de certains investissements.
Merci Alexis Morel. Service économie, à peine commencé, aussitôt terminé à Genève. La deuxième journée de négociations entre les Ukrainiens, les Russes et les Américains n'aura duré que quelques heures. Hier, l'émissaire de la Maison Blanche, Steve Witkoff, avait pourtant salué le progrès significatif des discussions. Volodymyr Zelensky, lui, parle au contraire de discussions difficiles. Les positions diffèrent toujours sur des points clés, dit le président ukrainien qui insiste. La participation de l'Europe au pourparlers est indispensable. Et c'est dans ce contexte que l'Europe tente de faire entendre sa voix, de montrer son unité, mais que les relations entre la France et l'Allemagne ne sont pas au beau fixe. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Le chancelier Merz semble même prêt à abandonner le SCAF, le projet d'avion de combat franco-allemand, ce projet à 100 milliards d'euros lancé en 2017 qui devait remplacer les Rafales français, les Eurofighters allemands et espagnols à partir de 2040 et qui était présenté, Sébastien, comme l'un des symboles de la coopération entre la France et l'Allemagne en matière de défense.
Ah oui, et cela ressemble maintenant fort au dernier clou planté dans le cercueil du SCAF. France et Allemagne ne sont plus d'accord sur rien, ni sur la répartition des tâches. Dassault voudrait le rôle de leader, l'Allemagne souhaite un partage plus équitable, ni sur le profil de l'avion, constat du chancelier Friedrich Merz ce matin dans le podcast Marc Wechsel.
Les Français ont besoin, dans la prochaine génération d'avions de combat, d'un avion capable de transporter des armes nucléaires et d'opérer à partir d'un porte-avions. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin actuellement dans l'armée allemande.
Nouveau coup de froid donc entre Berlin et Paris. Dernièrement, l'Allemagne a reproché à la France de ne pas investir suffisamment dans la défense et d'avoir voulu bloquer l'accord commercial avec le Mercosur. Au sujet du SCAF, le chancelier évoque une alternative, la construction de deux avions, un français, un allemand.
La France souhaite n'en construire qu'un seul et l'adapter pratiquement aux spécifications dont elle a besoin. Mais encore une fois, ce n'est pas celui dont nous avons besoin. Il ne s'agit donc pas d'un différend politique, mais d'un véritable problème au niveau du profil d'exigence. Et si nous ne parvenons pas à le résoudre, nous ne pourrons pas maintenir le projet.
Selon la presse allemande, Friedrich Merz a d'ailleurs déjà informé ses ministres qu'il n'y aurait plus d'avions communs. Côté français, Emmanuel Macron fait lui savoir qu'il reste engagé pour le succès du SCAF. Voilà qui ne va pas rapprocher Paris et Berlin.
Merci Sébastien Baer, correspondant de France Inter à Berlin. Et puis au Proche-Orient, les projets du gouvernement israélien en Cisjordanie occupée suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Nous condamnons fermement les mesures unilatérales visant à étendre la présence illégale d'Israël dans ce territoire, écrivent 85 pays, dont la France. Dans un communiqué commun, les autorités israéliennes ont décidé de faciliter l'achat de terres par les colons, d'accélérer le processus d'enregistrement foncier, ce qui pourrait entraîner la modification de la composition démographique de la Cisjordanie, craignent les signataires de ce texte.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
Comment ne pas avoir de sueur froide quand on prononce ce nom Parcoursup, tant il est synonyme de stress dans bien des familles. Environ 1 million de candidats devraient s'inscrire cette année encore sur la plateforme d'orientation. Ils ont jusqu'au 12 mars pour formuler des vœux parmi 25 000 formations différentes. Depuis son lancement en 2018, Parcoursup est la cible de bien des critiques. Mais c'est une plateforme qui fonctionne, soutenait encore il y a quelques jours le ministre de l'Enseignement supérieur. Alors certes, elle fonctionne cette plateforme, mais elle a tout de même des défauts, lui répondent deux députés dans un rapport que vous allez nous détailler, Laurélie Carrive. Les élus évoquent une réussite technique, mais un échec politique.
Alors le positif d'abord. Parcoursup représente un progrès pour le socialiste Pierre Courbon et le modem Franz Gumps. Fini le tirage au sort qui existait sur APB, la plateforme est plus transparente que tous les systèmes précédents. Et contrairement à une idée répandue, elle ne sélectionne pas, elle fait la courroie de transmission entre les candidats et les formations qui, elle, trient les dossiers selon leurs propres critères. L'algorithme classe ensuite les propositions.
Alors en revanche, la plateforme cristallise les inégalités socioculturelles.
Les deux députés soulignent l'immense décalage entre les avis très positifs de ceux qui administrent Parcoursup et les positions mitigées de ces usagers. Il y a une différence, disent-ils, entre les données disponibles et ce qui est compris par les jeunes. Il faut plus de clarté. Ils recommandent aussi d'initier les lycéens à Parcoursup dès la seconde ou la première pour limiter le poids des inégalités socioculturelles et le recours au coach privé. privée et pour les mêmes raisons la suppression de la lettre de motivation. Plus globalement, ils observent que le problème en fait n'est pas tant Parcoursup que le manque d'investissement dans l'enseignement supérieur qui ne permet pas de répondre à une demande croissante.
Bon, on souhaite bon courage bien sûr à tous les candidats en pleine phase d'inscription. Merci Laurélie Carive, spécialiste éducation à la rédaction de France Inter. Il est accusé d'avoir violé une jeune femme dans une chambre d'hôtel en octobre 2021, profitant de son sommeil pour lui imposer une relation sexuelle. Le rappeur Naps est jugé depuis le début de la semaine par la cour criminelle de Paris. Hier, il s'est défendu de toute accusation de viol, parlant de relations consenties. Et ce matin, c'était au tour de la plaignante de venir s'expliquer à la barre. Manon Lombard-Brunel, bonjour. Vous êtes en direct du Palais de Justice de Paris, témoignage particulièrement attendu, Manon, puisque c'est la première fois que la jeune femme livrait sa version des faits.
Oui, mais son propos est clinique, son corps ne bouge pas. Elle décrit méthodiquement, étape par étape, le déroulement de la soirée. La boîte de nuit d'abord, elle y est avec deux de ses amis. Rejoignent la table de Naps, l'ambiance y est bonne, l'ivresse monte. Au petit matin, le groupe s'accorde pour continuer la fête dans une chambre d'hôtel. La plaignante évoque d'abord des discussions, rien de plus. Le mélange d'alcool et de protoxyde commence à peser. Pour ne pas s'écrouler, elle décrit des allers-retours entre le lit et les genoux de celui qu'elle ne nomme que par son nom de famille. Les avocats de la défense la questionnent sur ce rapprochement. Elle répond, sa voix ne tremble pas. S'asseoir sur les genoux de quelqu'un ne signifie pas qu'on veut avoir un rapport sexuel avec. La jeune femme finit, comme ses amis, par s'endormir sur le lit, tout habillée. Le début de ce qu'elle appelle le trou noir. Elle décrit plusieurs phases d'éveil. J'entends des gémissements, je sens qu'on se frotte à moi. Elle parle d'un état de semi-conscience. Elle en sort au moment de la pénétration. Je suis sur le dos, tétanisée, je le vois au-dessus de moi, aucun son ne sort de ma bouche. Pendant toute l'audition, Naps a le regard dans le vide. La plaignante, tout en noir, ne craquera qu'après une question de l'avocate générale. Vous étiez comment en sortant de cette chambre ? Anéantie, privée de ma dignité, elle poursuit, les larmes montent. C'est comme si on m'avait retiré toute ma lumière.
Récit d'audience signé Manon Lombard-Brunel en direct du Palais de Justice de Paris. Et puis toujours dans l'actualité judiciaire, la procureure de Paris invite les victimes potentielles de Jeffrey Epstein à témoigner ou à porter plainte. Nous voulons être aux côtés de ces victimes, dit Laure Bécuot sur France Info. Cinq magistrats parisiens enquêtent sur d'éventuels faits commis en France par le criminel sexuel américain. Un mois de jeûne, de prières, mais aussi de fêtes et de moments de rassemblement. C'est le mois du Ramadan qui commence ce mercredi. La grande mosquée de Paris l'a annoncé hier soir. Depuis quelques jours, les pratiquants se préparent. On fait des courses pour les repas de rupture de jeûne, notamment dans ce supermarché d'Exincourt, près de Montbéliard, où s'est rendu Léopold Picot.
Des légumes, de la viande, des épices et du miel, la grand-mère de Jiane remplit son caddie.
Je prépare le machin pour le Ramadan. On achète la viande, céleri, persil. Parce que j'aime bien cuisiner, j'aime bien, voilà.
Surtout quand c'est pour ses petites filles, Jiane, 10 ans, c'est déjà tout sur le Ramadan.
On se lève tôt, on déjeune et des fois on va se coucher pour se reposer et on ne doit plus manger jusqu'à la prière du soir pour voir ceux qui n'ont pas à manger ce qu'ils vivent.
Quatre bouchers courent partout pour servir les clients rapidement. Ce sera des merguez pour Nadia et son fils Samy. Le Ramadan, ça veut dire beaucoup de temps derrière les fourneaux.
Ça prend 3-4 heures. Toute la journée, on ne mange pas. Du coup, le soir, on a envie de voir une table remplie.
À force, le patron Omer Agoul arrive à adapter les stocks à cette hausse du panier moyen, malgré le fait que les envies changent au fil des dates du Ramadan qui se décale de 2 semaines tous les ans.
L'hiver, le froid, ça donne plus envie de manger des légumes secs, des harira, shorba.
Des soupes réconfortantes après 10 heures de jeûne quotidien en plein hiver, mais ça aurait pu être pire. Lorsque le Ramadan tombe en juin, il peut durer plus de 16 heures.
Léopold Picot, ici Belfort-Montbéliard. Le mois du Ramadan va durer jusqu'au 20 mars prochain. Tout de suite le cinéma. Et pour tout savoir sur les films à l'affiche cette semaine, Alexis Demeyer nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Céline.
Alors l'événement cinéma de la semaine, vous aura-t-il échappé ? Nous vient des États-Unis, Marty Suprême avec Timothée Chalamet.
Oui, après les déjà formidables Good Time et Uncut Gems, le réalisateur new-yorkais Josh Safdie franchit encore un palier avec ce vrai faux biopic du champion de tennis de table, Marty Reisman.
Hey, I'll rip that unibrow right off his forehead.
You want to get physical, like an ape?
Marty, incarné par un très grand Timothée Chalamet, est un prodige du ping-pong qui parcourt le monde pour tenter de décrocher le titre mondial. Mais dans l'immédiate après-guerre, ce jeune juif du Lower East Side doit conjuguer sa condition d'athlète de haut niveau avec une vie de misère où chaque dollar compte. Et ça crée forcément quelques frictions, comme Josh Safdie les affectionne. Divertissant et intelligent, émouvant et aussi épuisant, Marty Supreme est un objet rare dans la production américaine actuelle. Une anomalie qu'il faut absolument célébrer en se précipitant dans les salles obscures.
Eh ben c'est bien noté, Alexis. Alors décidément, le sport à l'honneur cette semaine, puisque le basket est le sujet central de la comédie Le Rêve Américain.
Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA ?
Tu veux commencer par le haut du panier direct ?
Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non ?
Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein.
Le rêve américain du titre, c'est celui exaucé au tout début des années 2000 par deux agents de joueurs, des Frenchies totalement autodidactes, qui sont parvenus à faire signer des contrats en NBA à plusieurs basketteurs tricolores comme Nicolas Batum et Rudy Gobert. Ce biopic qu'ils coproduisent est tout à leur gloire et aurait mérité d'être raccourci d'une bonne demi-heure. Le réalisateur Anthony Marciano aurait aussi été bien inspiré de ne pas réduire les personnages féminins à des rôles de faire-valoir. Reste que cette ode à l'ascension sociale, bien testostéronée donc, permet une belle immersion dans les coulisses du sport business et nous réconcilie avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, dont les dernières prestations étaient disons un peu redondantes et qui ici font preuve d'une sobriété qu'on ne leur connaissait pas et qui leur va très bien.
Alors vous nous recommandez en revanche deux autres films, l'un se passe au Chili, l'autre au Népal.
Oui, le mystérieux regard du flamant rose pris un certain regard à Cannes l'an dernier prend pour décor le désert d'Atacama au nord du Chili. Ce premier long métrage du tout jeune Diego Céspedes nous plonge dans un cabaret de travestis confrontés à l'arrivée du sida au début des années 80. Entre le western et le drame intime, le mystérieux regard du flamant rose impressionne par ses audaces formelles et par sa narration débridée. Un coup de cœur aussi pour Au-delà de Katmandou, émouvant road movie documentaire dans l'Himalaya. Le réalisateur franco-irlandais Alexander Murphy filme deux sœurs népalaises qui quittent la ville et rejoignent leur famille à plus de 5000 mètres d'altitude pour les aider à récolter le Yarsagumba, ce champignon chenille très rare et qui vaut de l'or à la revente.
Alors c'est une grosse semaine décidément pour les cinéphiles, il y a plein d'autres choses qui sortent en salle aujourd'hui.
Et notamment Couture, un drame dans le milieu de la mode avec Angelina Jolie, Maigret et le mort amoureux, l'adaptation par Pascal Bonitzer d'un polar de Simenon, et Cold Storage, une comédie de science-fiction avec la star de la série Stranger Things, Joe Keery.
Merci Alexis Demeyer, spécialiste cinéma à la rédaction de France Inter. Et puis un mot de ces Jeux Olympiques, pas de médaille ce matin pour la délégation tricolore. Tous les espoirs reposent désormais sur les épaules des biathlètes, l'équipe féminine qui va viser l'or en relais cet après-midi après le titre olympique bien sûr arraché par leurs collègues masculins hier. On suivra ça avec toute l'équipe de France Inter déployée aux Jeux de Milan-Cortina. 13h27, restez avec nous sur France Inter. Dans la prochaine demi-heure, on retrouvera la météo de Patricia Charbonnier, encore et toujours de la pluie au programme. Vous en doutez, mais on aura tous les détails avec vous Patricia. Et puis on accueillera nos invités pour tenter de comprendre pourquoi y a-t-il autant de suicides dans les prisons françaises, comment y remédier. Flavie Rau du syndicat des directeurs pénitentiaires et l'avocat Mathieu Quinquis sont avec nous et avec vos questions, j'espère. 0145 24 7000. Une semaine dans leur vie nous emmène depuis lundi dans la loge d'un concierge un peu particulier. Il est pianiste, virtuose même. Il va nous expliquer dans l'épisode du jour comment il tente de se faire connaître via les réseaux sociaux tout en gagnant sa vie comme gardien d'immeuble. 13h50, c'est la France. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Céline.
Du 1 Hebdo avec nous comme tous les mercredis. Et aujourd'hui Eric, vous ressuscitez un journal que vous connaissez bien à une époque où la presse écrite était encore florissante.
Et oui Céline, à travers les souvenirs de l'écrivain Tahar Ben Jelloun qui se rappelle avoir été pigiste au quotidien du soir à partir de 1973. C'est une époque qui revit avec ses grandes figures et aussi ses grands sujets qui font encore écho à notre présent.
Et bonjour Julien Baldacchino. Et
bonjour.
C'est une chanson qui est à votre micro aujourd'hui.
La chanteuse, coach vocale et drag queen Marlène Schaff qui nous parle du titre culte du groupe Aerosmith, Dream On.
Merci à tous les deux, à tout de suite.
C'est toi le chat.
Non, c'est toi.
Non, c'est toi.
Je suis fatiguée.
Viens,
on écoute mon petit France Inter.
Oh, c'est quoi ça?
Pour les tout petits, à partir de 2 ans, il y a désormais mon tout petit France Inter. Des histoires et de la musique sans publicité pour passer une journée pleine de découvertes.
Moi, j'adore!
À retrouver 24 heures sur 24 sur l'appli Radio France.
Business Affaires.
Comment le groupe EDF accompagne l'électrification du transport routier? Jérôme Clichy, du concessionnaire Goriaz, nous l'explique tout à l'heure.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Tout de suite, la météo.
La météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Céline.
Alors on aurait bien aimé parler du soleil, mais bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Encore de la pluie pour cet après-midi.
Ah, ça s'enchaîne. Hein. Les perturbations défilent depuis plus d'un mois maintenant sur le pays pour cet après-midi. Météo France nous annonce une nouvelle tempête. On approche sur l'Atlantique. Pedro, alors cette tempête est un cran en dessous de la tempête Nils, mais elle arrive dans un contexte hydrologique, on le sait, très inquiétant sur la moitié ouest du pays. Et déjà à l'avant de cette dépression, cet après-midi, nous aurons de la pluie sur la moitié nord et dans l'ouest, et encore de bons cumuls de précipitations attendus sur la Bretagne, sur la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charente. Le temps est plus calme quand même aujourd'hui en Occitanie, sur le quart sud-est, avec un ciel lumineux, quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Et attention, le risque d'avalanche est très marqué sur les Alpes du Nord.
Alors demain, pas d'amélioration, Patricia, le temps va rester très agité, de la pluie, du vent et puis de la neige en montagne.
Donc, toujours sous l'influence de cette dépression, Pedro, dès ce soir, les conditions météo vont fortement se dégrader. Alors la dépression va circuler au nord et c'est au nord, au sud de cette dépression que les pluies les plus fortes sont attendues, entre le massif central et le sud-ouest et dans le sud-est. Et pour demain, plusieurs éléments météo à surveiller. Toujours ces fortes pluies qui vont tomber sur des territoires déjà inondés. Forte chute de neige en montagne avec demain un risque d'avalanche qui sera son maximum sur les Alpes. Risque d'avalanche très marqué sur les Pyrénées. Risque de couler de neige demain sur les Vosges et le Massif central. Et puis en plus, le vent qui va se renforcer dès cette nuit dans la partie sud de la Tramontane, dans son domaine, jusqu'à 120 km/h en rafale demain. Et le long de la façade atlantique, entre le sud du Finistère et le golfe de Gascogne, le vent va souffler fort demain, avec en plus des coefficients de grande marée très élevés. Nous aurons demain en plus un risque de submersion marine sur la façade atlantique.
Merci Patricia Charbonnier. Et s'il fallait encore une preuve de l'ampleur de ces crues, de son caractère inhabituel, Bordeaux active son plan de sauvegarde, c'est la mairie qui l'annonce à l'instant et c'est une première depuis 1999.
France Inter, le 13-14.
C'est un chiffre qui interpelle. Près de 150 détenus se donnent la mort chaque année dans les prisons françaises. Ça veut dire concrètement un cas tous les deux ou les trois jours. Et derrière ce chiffre, il y a des familles qui veulent comprendre, qui accusent aussi parfois l'administration pénitentiaire de ne pas avoir attendu, de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir protégé des détenus particulièrement fragilisés. Alors que faire? Deux invités pour en parler. Bonjour Flaviro.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat national des directeurs pénitentiaires. Et bonjour à vous, Mathieu Quinquis.
Bonjour.
Vous êtes avocat, vous êtes le président en France de l'Observatoire international des prisons. Je disais près de 150 détenus, alors ça varie un peu d'une année à l'autre. Est-ce que c'est un chiffre en augmentation, Mathieu Quinquis?
Alors c'est un chiffre relativement stable depuis quelques années en France, mais si on le compare à l'évolution du nombre de suicides dans la population générale, qui lui baisse, eh bien cette stabilité vient en réalité marquer des comportements d'auto-agression et d'actes de mort délibérés des personnes détenues qui restent très importants et surreprésentés dans le milieu carcéral.
C'est un constat que vous partagez, Flaviro?
Oui, tout à fait. En réalité, si on regarde les choses un petit peu plus à la loupe, on observe, j'ai envie de dire, heureusement, une légère amélioration sur les dernières années, puisqu'on est passé de 148 suicides en détention en 2023 à 136 en 2025. Donc, on a une très légère amélioration. Oui. On peut malgré tout considérer que vu l'augmentation de la population pénale et puis la dégradation des conditions de détention, c'est tout de même quelque chose qui interpelle, que ce chiffre n'augmente pas. Et en tout cas, comme maître Quinquis, je tiens à souligner que finalement, il s'agit de comparer ce chiffre avec ce qui se passe dans la population normale. Et sur ce plan, on a quand même des chiffres qui sont très, très interpellants. Et moi, je les trouve dans un rapport qui date de cet été et qui a été produit par le Parlement sur la prise en charge psychologique et psychiatrique des personnes classées sous main de justice, puisque finalement, on se rend compte que chez les enfants en prison, on retrouve trois fois plus de personnes atteintes de troubles psychologiques, on retrouve huit fois plus de personnes atteintes d'addiction. Et puis surtout, un chiffre très impressionnant, c'est la surreprésentation des carences éducatives et des traumatismes vécus pendant l'enfance. On est à 75% de plus chez les hommes et 85% de plus chez les femmes.
C'est une population plus fragile, effectivement. Mais avant de parler justement des causes, des failles, et puis des pistes de solutions aussi, parce qu'on va en dessiner ensemble, je voudrais d'abord vous faire écouter un témoignage. C'est celui d'une mère qui a perdu son fils de 18 ans en prison. Il s'appelait Sacha. C'était un jeune homme fragile, consommateur de cannabis, qui avait été condamné à 6 mois de détention pour avoir volé la caisse d'un magasin. Après une bagarre avec ses co-détenus, il avait été envoyé à l'isolement. Il n'a pas supporté la solitude au quartier disciplinaire. Il s'est suicidé en avril 2021. C'était à Saint-Brieuc. Ses parents estiment que l'administration pénitentiaire n'a pas mesuré sa détresse psychologique. Écoutez, Lauriane, c'est sa mère, au micro de Cécilia Arbona.
Sacha, quand il a appris qu'il allait y aller, plusieurs semaines avant, il s'est enfermé seul dans sa tête. Il était déjà, pour lui, au mitard psychologiquement. Donc, il avait beaucoup de mal à voir les jours arriver, en fait. Je sais qu'il a eu droit à des feutres. Il s'exprimait beaucoup par le dessin, hein. Mais je sais aussi qu'il a demandé des livres qui lui ont été refusés. Il m'a dit, suite aux 5 jours qu'il avait fait, qu'il y avait juste une petite radio qui devait remonter à la manivelle pour pouvoir l'écouter, tellement il supportait pas d'être à l'isolement, quoi. Donc il remontait sans cesse ce petit mécanisme, je sais pas comment ça se présente, hein, pour pouvoir écouter une radio. Donc il est entré au mitard le vendredi, il est décédé le mardi. Le matin même de son décès, il a appelé les surveillants en pleurs, en disant « je peux plus, je tiens plus ». Il faut que je sorte de là, je vais mourir. Donc ils l'ont fait sortir et il a pu écrire une lettre adressée au sous-directeur de la prison où il lui dit « Monsieur O, je vous supplie de prendre cas de ma situation, je tiens plus, je suis au bord du suicide, je suis fragile d'esprit et là je vais pas tenir le choc. Donc je vous demande de bien vouloir fractionner ma peine. J'ai déjà fait tant de jours, il m'en reste tant, je vous demande de fractionner ça en 3 fois. » Pour pouvoir tenir le coup. On ne sait pas ce qui lui a été dit, on ne sait pas si vraiment il y a eu un accord. Pour nous, hein, c'est notre conviction personnelle à mon mari et moi, et on voit bien un changement d'écriture en bas de la lettre, et c'est marqué « J'ai décidé d'en finir maintenant et dites à mes parents que je les aime, adieu ». On ne veut pas de condamnation quelconque ou de... C'est pas ça qu'on recherche, c'est qu'il y a des gens qui sont responsables du manque d'attention qu'ils ont porté et du manque de secours qu'ils ont porté parce qu'il a bien crié son mal-être. Il a bien dit dans quel état psychologique il se trouvait et jusqu'où il était capable d'aller. On a besoin d'une responsabilité pénale puisqu'ils ne sont pas capables de reconnaître leur responsabilité, qu'on leur dise « mais si vous aviez agi autrement, peut-être que ce gamin-là de 18 ans, il ne serait pas mort ce jour-là ».
Alors je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur ce cas précis, Maître Mathieu Quinquis, mais peut-être sur ce témoignage, on entend une mère désemparée, en manque d'informations, en manque de réponses. Est-ce que c'est symbolique d'autres témoignages que vous recevez, vous ? À l'Observatoire des prisons.
Ce témoignage, on l'a aussi recueilli à l'OIP et cette famille fait preuve d'une très grande dignité. Et il faut écouter précisément ce qu'elle nous dit parce que elle est symptomatique effectivement des cas de suicide en détention. D'abord sur le lieu dans lequel ce suicide est intervenu, le quartier disciplinaire, qui est donc un espace de réclusion dans la réclusion, qui est déjà la prison, avec un risque de suicide qui est augmenté, qui est multiplié par 20 au cours de la mesure privative de liberté du quartier disciplinaire. Donc une situation qui expose directement les personnes détenues à des risques d'auto-agression. Une auto-agression qui vient parfois pas pour mettre un terme à la vie, mais simplement pour lancer l'alerte. Et cette alerte n'est pas suffisamment entendue, suffisamment écoutée par l'administration pénitentiaire. Et c'est l'autre volet de ce dossier, c'est qu'effectivement, il y a une forme de passivité fautive de l'administration face à certaines situations.
Flavie Roux, justement, sur ce point, vous entendez cette mère dire « il avait écrit, il avait alerté, il ne s'est rien passé ». Est-ce que ça veut dire que l'administration peut passer à côté d'un appel à l'aide comme celui-ci ?
Ah, je crois que malheureusement, c'est effectivement quelque chose qui peut se produire. En tout cas, ce témoignage, il m'évoque des situations que j'ai rencontrées à plusieurs reprises en tant que directrice. Ça m'est arrivé très souvent de rencontrer des détenus, notamment placés au quartier disciplinaire, qui manifestaient une forme de détresse. Ça m'est arrivé régulièrement de fractionner des peines de quartier disciplinaire. La difficulté qui est la nôtre en établissement pénitentiaire, c'est effectivement d'évaluer à la bonne hauteur la détresse qu'on a en face de nous, la sincérité, et puis que informations nous parviennent aussi en temps voulu. Une fois de plus, on est souvent englué, c'est triste à dire, mais dans des gestions de flux qui nous font passer à côté de véritables problématiques humaines, sanitaires, telles qu'elles viennent d'être tragiquement décrites ici. Donc oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, contre quoi on se donne, je l'espère, les moyens de lutter au quotidien, mais insuffisamment au regard des résultats, sans doute.
Mais ça pourrait être quoi, justement, la solution, Mathieu Quinquis? Plus de moyens, plus de temps, disait Flaviro, ou bien un dispositif peut-être plus précis, plus de formation?
Bah, d'abord, on met beaucoup de choses sur le dos de l'administration pénitentiaire, mais la justice, d'une manière générale, doit s'interroger sur les personnes qu'elle envoie en détention, parce qu'il a été évoqué tout à l'heure les profils des personnes détenues qui sont pour beaucoup particulièrement vulnérables, qui présentent des troubles psychologiques, psychiatriques, des pathologies qui ne peuvent pas être prises en charge et suffisamment suivies en détention. Et peut-être qu'en envisageant d'autres solutions que la prison pour tout ce panel de personnes, eh bien, on parviendrait à prévenir les risques de suicide. Après, au sein de la détention, effectivement, l'administration pénitentiaire reste dans une logique de contenir le risque de suicide, de faire en sorte que la personne ne puisse pas porter atteinte à sa vie en mettant à disposition parfois des kits anti-suicide, en enfermant la personne dans des cellules dédiées qu'on considère comme de protection d'urgence avec des équipements,
draps voilà, des draps déchirables, des qu'on peut pas,
c'est ça,
qu'on
aucun peut pas aucun mobilier sur lequel on pourrait se suspendre ou se pendre. Et malheureusement, c'est effectivement plutôt sur l'accompagnement au long cours et la détection de situations de fragilité que l'administration pêche aujourd'hui. Et effectivement, quand on voit les taux d'occupation et de suroccupation dans les établissements pénitentiaires, l'insuffisance du nombre de personnels pénitentiaires, l'insuffisance du nombre de personnels soignants également, et d'insertion et de probation, eh bien on se retrouve avec des personnes qui restent enfermés, mais malheureusement isolés dans leur détresse et à qui on n'offre pas suffisamment de perspectives positives.
Est-ce qu'on en demande trop, peut-être, au personnel pénitentiaire, Flaviro, vu les conditions de travail que vous nous avez décrites, vu la population plus fragile aussi, qui est celle qui est en détention?
Alors, je ne sais pas si on nous en demande trop. En tout cas, on nous demande sans doute pas les bonnes choses. Et les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, ils démontrent en effet, comme vient de le dire Maître Quinquis, clairement que on considère la prison comme une réponse à des problématiques qui sont en réalité tout autres. Et qu'aujourd'hui, faute d'un certain nombre de services publics qui fonctionneraient comme ils devraient, je pense aux soins, je pense à l'éducation, je pense à un certain nombre de services sociaux, on laisse la situation se dégrader à l'extérieur au point que des actes de délinquance qui auraient pu sans doute être contenu par d'autres biais se produisent, et on considère que la prison est désormais la seule réponse, parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle est toujours là, la prison, contrairement à d'autres services publics, et c'est sans doute là qu'on se trompe, et c'est dans les gens qui arrivent en prison qu'on doit se demander si la prison était la bonne réponse pour ces gens-là et pour soigner un certain nombre de troubles qui existent et qui sont des causes d'explication des passages à l'acte délinquant et criminel. Je pense que c'est là qu'on se trompe.
Mathieu Quinquis, quand on regarde chez nos voisins, souvent c'est intéressant de comparer justement les situations, est-ce qu'on fait face aux mêmes problématiques ou est-ce que la problématique et la réponse sont différentes ?
Bah malheureusement, là aussi, la France se distingue de ses voisins européens et de ses partenaires au sein du Conseil de l'Europe, hein, qui réunit 48 États membres. Et la France figure parmi les trois plus mauvais élèves, avec un taux de suicide qui est de 19 pour 10 000 personnes détenues, alors qu'en moyenne, il est de 7 pour 10 000 personnes détenues au sein du Conseil de l'Europe. Donc on est très largement au-dessus de cette moyenne. Et c'est inquiétant parce que on voit que des solutions semblent exister dans d'autres pays pour prévenir ce risque de suicide, éviter que des personnes en arrivent à ce geste désespéré. Et la France ne prend pas les bonnes solutions. Il y a des textes qui sont pris, des notes sont régulièrement publiées, des guides méthodologiques sont adressés au personnel pénitentiaire. Mais manifestement, on reste arc-bouté sur une vision de la prévention du suicide qui, encore une fois, est principalement sécuritaire et prend pas en compte les aspects humains.
Est-ce qu'il y a des différences d'un établissement pénitentiaire à un autre, Flaviro? Je pense par exemple à la prison de Rennes. On a beaucoup parlé du nombre de suicides élevé, plus d'une dizaine de morts en 2025. Est-ce que ça dépend de l'équipe? Est-ce que ça dépend du profil des détenus?
Je pense que ponctuellement, on a effectivement ce genre de phénomène qui se produit où un établissement va rencontrer au cours d'une année une série de suicides. Je pense qu'à chaque fois, il faut examiner au cas par cas les conditions qui entourent la survenance de ce type de phénomène. J'ai pas de réponse pour Rennes. En tout cas, je pense que ponctuellement, effectivement, il y a des problématiques d'organisation de la détention qui peuvent venir expliquer ces phénomènes-là, des pratiques professionnelles insuffisamment ajustées, contrôlées, et puis néanmoins une dynamique de, j'allais dire d'exemplarité, évidemment c'est pas le mot, mais en tout cas voilà, une fois que le phénomène s'est produit une fois, deux fois, oui. Quelque chose qui incite les autres personnes détenues à considérer cela comme une solution, et là on a effectivement du mal à enrayer ces espèces de dynamiques morbides qui peuvent se mettre en place.
Et est-ce qu'on le vit comme un échec, un suicide, quand on est directeur d'un établissement pénitentiaire, Flaviro?
Alors oui, très clairement, je pense qu'on le vit comme un échec. On le vit d'autant plus comme un échec que régulièrement, après ce type d'événement, on pratique des retours d'expérience. On essaye d'examiner étape après étape ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et finalement, on se rend compte dans un certain nombre de cas, heureusement pas tous, qu'on est passé à côté d'un certain nombre de signaux qu'on aurait dû détecter. Et dans, même si on peut l'expliquer, même si voilà, la surpopulation, une fois de plus, rend les choses très très difficiles, c'est tout toujours vécu comme un échec. On a entre nos mains la vie de personnes détenues. C'est évidemment une de nos missions premières que de préserver leur intégrité physique. C'est effectivement quelque chose de très déroutant pour les personnels. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire que dans les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui, on en est réduit à reproduire de la souffrance. C'est quelque chose qui est aussi très dur pour les personnels et qui n'est évidemment pas du tout souhaité.
Est-ce qu'on a du mal à sensibiliser l'opinion publique, Mathieu Quinquis, justement à la souffrance, au sort des détenus, parce que ça se passe dans la prison et qu'on se dit qu'ici, ils sont là, c'est qu'il y a une raison?
Oui, alors la prison a reçu ces derniers mois un écho médiatique assez singulier avec le sort de Nicolas Sarkozy. Mais cette focalisation temporaire masque effectivement une ignorance coupable de la société dans son entier. Je vous remercie d'avoir organisé cette émission et cette discussion sur ce sujet, parce que la prison est un sujet difficile à évoquer. On a un garde des Sceaux qui l'excite dans le débat public pour en faire un marchepied dans la perspective des élections présidentielles, alors qu'on le voit ici, on parle de vie humaine, de vie qui parfois s'achève terriblement dans la souffrance au sein de la détention, et on ne peut pas l'accepter, et donc chacun doit effectivement être sensible à ce sujet.
Merci Mathieu Quinquis, avocat président de l'Observatoire international des prisons. Merci Flaviro, secrétaire général du syndicat national des directeurs pénitentiaires, d'être venu justement nous présenter cette problématique sur France Inter. Tout de suite le feuilleton. Feuilleton qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un virtuose du piano devenu gardien d'immeuble à Paris. Il s'appelle Audric De Oliveira, il a 33 ans. Il a étudié dans les plus prestigieuses écoles de musique, mais il ne parvient pas à vivre de sa musique. Alors face à la précarité, il a décidé de devenir concierge, tout en tentant de se faire connaître sur les réseaux sociaux et son compte Instagram, La Loge du Pianiste.
Pendant très longtemps, j'ai caché en fait que j'étais gardien d'immeuble. J'avais peur qu'on me prenne pour un musicien raté ou juste que je perde toute crédibilité. Donc je l'ai caché pendant presque, je sais pas, enfin caché. Sauf à ma famille ou amis très très proches, mais j'en ai vraiment pas parlé pendant plus d'un an et demi. Et c'est pas vraiment dans le but de me faire remarquer que j'ai décidé d'en parler sur les réseaux, c'est plus dans le but de donner de l'espoir et de dire aux autres musiciens qui seraient dans mon cas, ben vous n'êtes pas tout seul. On peut quand même dire quelque chose artistiquement, enregistrer un album, même si la vie nous a rangés dans un coin de loge. Donc voilà, c'était plus pour créer un élan de solidarité, de dire aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Ouais, je l'ai caché, j'avais peur en fait du regard des autres. Oui. Et aussi de moi-même, c'est dur de se dire qu'est-ce que je suis maintenant? Est-ce que je suis encore musicien? Est-ce que je suis gardien d'immeuble? Est-ce que je suis les deux? J'étais un peu... Enfin, j'ai du mal à me qualifier moi-même, en fait.
Aujourd'hui, c'est plus clair, vous savez comment vous définir?
Oui, mais je pense qu'au fond de moi et de... dans toutes les micro-parcelles de mon corps, je suis musicien et je le resterai, en fait, peu importe ce que je fais à côté. C'est un mode de vie, un mode de pensée. Et la loge est temporaire. Ça devait être pour quelques mois, et après, c'est devenu un an, et c'est devenu deux ans. Alors, pourquoi pas un petit extrait de mon prélude numéro 5, j'en ai composé 12. C'était pendant le Covid d'ailleurs, donc pendant le Covid j'avais plus de cours, plus de concerts, j'ai quitté mon appartement parisien, je suis retourné vivre à la campagne chez mes parents et j'ai composé 12 préludes, voilà. Et dans l'extrait que je vais proposer, je pense qu'on ressent assez bien cette nostalgie, tristesse et mélancolie. Ben, c'est terrible, mais en fait... quand on sort du conservatoire, alors effectivement, on s'est très bien joué, on a avalé des milliers d'heures de piano. Il y a une chose qu'on nous apprend pas, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite, quoi. On nous lâche dans une espèce de jungle. On nous apprend pas à nous vendre, à nous démarquer, à démarcher des concerts, des agents, etc. C'est complètement nébuleux. Et en fait, on s'y perd. Et quelques-uns ont la chance d'être repérés ou d'avoir, je sais pas, peut-être un génie musical plus que d'autres, mais ça reste des exceptions rares ici, mais c'est la jungle, donc la plupart, malheureusement, s'y perdent. 100% de notre cerveau, notre corps et nos pensées au conservatoire sont dédiées à la musique, à bien jouer, au concert, au stress, etc. Mais c'est clair qu'en 2026, il faudrait vraiment un petit cursus en complémentaire de ce qu'est la vraie vie d'un musicien. Il est très difficile de vivre de sa musique, et je le vois aussi avec tous mes anciens collègues élèves du conservatoire. Je pense que beaucoup ont arrêté la musique ou se sont redirigés vers d'autres métiers avec plus de débouchés, voilà. Je suis l'un des seuls, en tout cas dans mon groupe d'élèves d'avant, qui est continué. Voilà, où tout le monde s'est vraiment reconverti dans l'enseignement pur, simple. C'est en ça que je pense que je suis atypique. J'ai pas abandonné l'idée d'être concertiste, d'enregistrer moi-même mes albums, seul. Voilà, c'est aussi un symbole de, je sais pas, persévérance et d'espoir. Mon objectif, évidemment, là, je me dis, allez, en 2026, je redouble d'efforts, je trouve plein de concerts et je peux quitter cette loge.
Voilà pour le feuilleton signé cette semaine, Vanessa Descoureaux.
France Inter, le 13-14.
Regarde, Eric Fotorino, tous les mercredis à 13h50, avec aujourd'hui un journal que vous connaissez bien, Eric. À l'heure où la presse écrite a du mal à rivaliser avec les écrans, pourquoi revenir à son âge d'or des années 70? Est-ce que vous aviez un petit accès de nostalgie?
Non, je crois pas, Céline, même si j'ai passé en effet 25 ans de ma vie au journal Le Monde. C'est le livre sensible et attachant de l'écrivain Tahar Ben Jelloun, simplement titré Pigiste au monde, paru chez Gallimard, qui a ranimé mes propres souvenirs. Autant dire que ce monde-là, hormis les lettres gothiques de son logo, n'a plus grand-chose à voir avec celui du 21e siècle, où la version numérique, excellente au demeurant, a largement supplanté le papier. Nous sommes en 1973 lorsque le futur prix Goncourt pour la Nuit Sacrée rejoint cette institution qu'on appelait le quotidien du soir ou le quotidien de la rue des Italiens, et que son fondateur, Hubert Beuve-Méry, avait imposé depuis 1944 comme le journal de référence. Sous la plume de Tahar Ben Jelloun, c'est une sorte de dinosaure de papier qui reprend vie. Le Monde coûte alors un franc. Et il arrive aux nouveaux venus d'envoyer ses articles par le système à air comprimé du pneu, j'ai connu ça aussi, aujourd'hui disparu, imaginez des feuillets tapés sur une machine à écrire puis roulés à l'intérieur de tubes qui circulent dans les entrailles de Paris. Pas de mail, pas de téléphone portable, c'était assurément le 20e siècle.
Ça paraît déjà tellement loin. Alors le temps a passé, Eric, Le Monde, comme l'ensemble de la presse, écrite ses modernités, c'est modernisé, mais les grands sujets y demeurent.
Et oui, Céline, c'est ce qui frappe quand on suit les aventures du pigiste Tahar Ben Jelloun, qui a 26 ans et gagne alors sa vie comme peintre en bâtiment. Il est accueilli par cette grande figure de la presse qu'était Pierre Viançon-Ponté, l'auteur de cette chronique du 15 mars 1968, restée célèbre car annonciatrice des événements de mai 68, titré « Quand la France s'ennuie ». Viançon prend Ben Jelloun sous son aile et il lui commande un article sur la grande misère des Nord-Africains en France. L'écrivain découvre le mal au dos, ce stress qui ne le quittera plus chaque fois qu'il écrira pour Le Monde. Plus tard, le journal l'envoie en reportage en Arabie Saoudite qui lui inspire les formidables carnets d'un pèlerin de la Mecque où il critique tous les mauvais traitements que ses compagnons acceptent au nom de la foi. En 1980, une page de Tahar Ben Jelloun sur les printemps arabes entraînera même l'interdiction du Monde en Algérie, une perte nette de 25 000 exemplaires. Mais vous avez bien fait, le rassure le directeur de l'époque, Jacques Fauvet.
Alors, la vie d'un journal, c'est une vie de rencontre.
Et oui, intensément, et Tahar Ben Jelloun, qui a rejoint Le Monde des livres, rencontre de fortes personnalités, des noms qui parleront à certaines mémoires, le délicieux François Bott, qui fut son ami, Bertrand Boireau-Delpech, bientôt académicien. Il se souvient de ses déjeuners du lundi où les rejoignaient l'ancienne déportée Auschwitz, Charlotte Delbo, l'ex-tolard devenu écrivain, Alphonse Boudard, ou le romancier grec Vassili Alexakis, tout un monde que Tahar Ben Jelloun ressuscite avec précision et délicatesse. délicatesse.
Alors après Le Monde, le 1 Hebdo, quel est le programme cette semaine?
Alors c'est pas pareil, Orwell est-il actuel? Référence au célèbre 1984 et à ce qu'on appelle l'orwellisation du monde sous la coupe réglée de quelques Big Brothers. Je vous recommande, Céline, notre entretien avec le réalisateur Raoul Peck, dont le film 2 plus 2 égale 5 évoque ce phénomène inquiétant. Et encore les textes de Kamel Daoud et de Cynthia Fleury.
C'est bien noté, merci Eric Fotorino. De C'est la France à C'est une chanson. Aujourd'hui, Julien Baldacchino, votre invité, est chanteuse et professeur de chant.
Et vous l'avez peut-être découverte parmi les professeurs de la Star Academy sur TF1, mais c'est aujourd'hui seule en scène que Marlène Schaff se produit. Elle incarne la drag queen Petra dans le spectacle A Queen is Born qui commence en mars à l'Alhambra à Paris. Et elle a choisi de parler d'un titre extrait du tout premier album du groupe Aerosmith, le Slow Dream On.
J'ai vécu aux États-Unis. Quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai fait mes études en France et dans une école que j'adorais. Cependant, on m'a très vite dit que en France, on chante en français. Donc, j'ai appris à écrire en français, à découvrir cette poésie et j'ai adoré le faire. Mais j'étais quand même un petit peu en train de m'effacer et d'effacer ce qui a fait vraiment battre mon cœur. Et lors d'un de mes voyages, j'ai un accident de voiture là-bas et je fais 10 tonneaux au-dessus de l'autoroute. Et je ne me souviens que d'une seule chose, c'est qu'à chaque fois que la voiture retombait, je me disais, je suis pas morte. Et si je meurs au prochain, bah j'aurai aucun regret parce que j'ai fait ce que j'aimais. Je vis vraiment ce moment-là comme une mise en garde de la vie, quoi. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Marlène? Je rentre et j'avais un concert d'Aerosmith à Bercy. Et donc j'écoutais plus de rock, j'écoutais plus de l'anglais, j'étais vraiment à fond chanson française. Et là, j'ai l'impression que tout redevient en couleur dans ma vie. C'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie de courir, de vivre. C'est ça que j'aime. Et je prends un rendez-vous dans la foulée avec un tatoueur et je me fais tatouer Dream On dans la nuque pour ne jamais, jamais revenir en arrière. Et j'ai toujours ce truc de je me touche la nuque avant de monter sur scène ou avant de faire quelque chose ou pour me souvenir que c'est toi le pilote de ton avion en fait.
C'est un morceau que le chanteur d'Aerosmith, Steven Tyler, a écrit lorsqu'il était adolescent.
Et ce mot d'ordre de la chanson qui dit « Suis tes rêves », Marlène Schaff l'a donc gravé dans sa peau et ça a eu un impact immédiat pour elle.
Je me revois rentrer à pied de Bercy à chez moi, j'habitais dans le 13e à l'époque, donc pour les non-parisiens, c'est pas très très loin à pied. Donc je rentrais à pied et j'avais un copain, Emmanuel Delcourt, qui était un éminent guitariste. Et je l'ai appelé et je lui ai dit « Tu veux monter un groupe de rock avec moi ?» Le lendemain, on faisait notre première chanson et ça a été le début de mon groupe de rock Schaff avec lequel j'ai tourné pendant 8 ans et j'ai fait mon premier album.
Aujourd'hui, quand vous montez sur scène, vous savez si à chaque minute de votre présence sur scène, vous êtes maîtresse de votre destin comme le dit cette chanson ?
J'espère. C'est un spectacle que j'ai commencé à jouer il y a déjà quelques années, qui se rôde hein, forcément. C'est un spectacle où vraiment je ne fais que ce que je veux. J'ai commencé à l'écrire, ça, je l'écrivais comme un livre au départ. Il n'y avait pas forcément de velléité à amener ça sur scène ou à en faire quelque chose d'ailleurs. C'était juste besoin d'écrire sans faux semblant.
Quand vous avez votre autre casquette, celle de coach et celle de prof justement, vous avez aussi, dans ce que vous avez envie de transmettre, cette idée de dire à vos élèves « Sois toi-même, suis tes envies », c'est quelque chose de fort dans ce que vous transmettez?
C'est même la ligne éditoriale de ma pédagogie, puisque moi j'ai à cœur de dire sans cesse à mes élèves « Comme tu es, c'est parfait ». Et c'est une phrase qui peut paraître complètement désuète, mais c'est une manière de leur dire, de les supplier de « s'il vous plaît, ne perdez pas ça ». Ne laissez personne vous faire douter de cet instinct qui fait que comme vous êtes, c'est parfait. Yeah, sing with me, sing for me, yeah, sing for me.
du groupe Aerosmith, c'était le choix de Marlène Schaff.
Qui est sur scène donc à partir du 18 mars, dans un mois tout pile à l'Alhambra, à Paris, dans A Queen Is Born. Et elle sera aussi cet été au Festival d'Avignon.
Merci Julien Baldacchino.